Vous écoutez On lit pour vous.
Les libraires CRAC, essais québécois, cette suggestion des libraires indépendants, parue le 11 juin 2024 dans Les libraires. 1. Godin, Jonathan Livernois, Ruba Gazal, édition Luxe. Jonathan Livernois opère ici un véritable travail de fond sur ce fascinant personnage, nous ayant quitté trop tôt. Grâce à de nombreuses entrevues menées avec les proches de Godin, de même qu'en obtenant un plein accès aux archives et en s'appuyant sur les travaux de celles et ceux qui l'ont précédé, l'auteur établit une passionnante biographie de référence qui fera date, en plus de se lire comme la chronique vécue de l'intérieur, de près de 60 ans d'histoire politique et culturelle du Québec. Avec admiration, mais sans la moindre trace de complaisance, il met en relief les contradictions de celui qui fut tour à tour poète célébré, éditeur inspiré de parti pris, député à vélo et ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration. Par Thomas Dupont-Buist, Librairie Gallimard. 2. Le drame des enfants parfaits, Céline Lamy, édition Atelier 10. Atelier 10 nous propose un essai court mais percutant, cette fois sur la surmédicalisation des enfants et la volonté des adultes à les inciter à grandir dans un moule précis. Cet essai nous invite à nous remettre en question comme parents, mais aussi simplement en tant qu'humains. Comment imaginer l'avenir si nous tentons de modeler nos jeunes à l'identique, à coups de médicaments et de diagnostics, et si nous ne nous intéressons pas vraiment à ce qu'ils vivent et les rend différents les uns des autres? Céline Lamy nous convie à revenir à une éducation plus naturelle et à embrasser nos petites pousses imparfaites comme elles sont. Un texte touchant et à lire, que vous ayez des enfants ou non, par Noémie Courtois, Librairie Carcajou. 3. Rue du Plessis, ma petite noirceur, Jean-Philippe Plot, édition Luxe. L'animateur et réalisateur à Radio-Canada raconte dans ce roman, mettons, sa migration intérieure. Issu d'une famille ouvrière et peu scolarisée, il n'était pas prédestiné à devenir un intellectuel. Il a grandi sur la rue Duplessis à Drummondville, dans la pauvreté économique et culturelle, l'intimidation, la violence, la peur de l'inconnu, l'hypocondrie et l'anxiété. Il souligne la déchirure sociale vécue lorsqu'il a amorcé ses études en sociologie ainsi que l'amour qu'il ressent pour ses parents. D'ailleurs, il s'adresse régulièrement à eux, au fil des pages, sans mépris, en espérant qu'un jour, ils liront ce livre. Un récit sensible, qui ratisse bien au-delà de sa famille et qui rend compte d'une réalité sociologique trop souvent occultée. Par Julie Collin, Librairie La Liberté. 4. Ils vivent le siècle, des hashtags aux révolutions, Mélanie Loisel, édition de l'Aube. Après, ils ont vécu le siècle, de la Shoah à la Syrie, en 2015, la journaliste et spécialiste en relations internationales Mélanie Loisel offre une trentaine d'entretiens avec des militants, des travailleurs humanitaires, des survivants et des personnalités politiques. Certains sont directement liés à l'actualité ou mettent des événements en perspective. De nombreux témoignages sont bouleversants et nécessitent parfois de prendre une pause avant de poursuivre la lecture, tandis que d'autres sont profondément inspirants. Chacune des entrevues est menée avec douceur et professionnalisme par l'autrice et, tout comme le volume précédent, des pistes de solutions sont émises par des gens sur le terrain, plusieurs adressant des messages aux jeunes et aux moins jeunes. au risque d'être cliché, un ouvrage nécessaire pour comprendre notre époque, par Julie Collin, Librairie La Liberté. 5. Tricoteuse et dentelière. Catherine Voyer-Léger, Lucille de Peslouan, Zéa Beaulieu-April, Oran Thibault, Karine Fournier, édition Marchand de feuilles. Dans ce collectif, les femmes nous parlent de leur passion pour les fils, la laine, la dentelle et les tissus. Certaines confectionnent leurs vêtements afin de lutter contre la surconsommation. D'autres utilisent leurs créations comme objet de militantisme pacifique pour dénoncer la perfidie du culte de la perfection. Quelques-unes y voient un outil pour apaiser leur anxiété. La majorité a le sentiment d'appartenir à une même communauté qui désire préserver ses savoirs ancestraux. Mais toutes ont la volonté de s'exprimer par leur art en toute liberté. Une lecture qui saura mettre des mots sur votre passion pour les arts manuels et qui vous donnera envie de sortir aiguille et crochet. Par Isabelle Rivet, Librairie Lulu, Mascouche. 6. Faire la romance, Sarah Maud Beauchesne, édition Cardinal. Dans ce récit réflexif, Sarah Maud Beauchesne s'intéresse à la question de sa vie, être ou ne pas être mère. Elle songe à ce que les deux choix impliquent et pose des questions intimes quant à sa sexualité, à ses désirs et à ses aspirations. On reconnaît le style poétique et la plume imagée nous ayant charmés dans « Cœur de slush » et qui, cette fois, nous permet de faire une incursion dans des observations plus personnelles. Certaines tournures de phrases nous font rire, alors que d'autres nous touchent profondément et nous font verser quelques larmes. Un livre dans lequel plusieurs se reconnaîtront et qui fait du bien grâce à son caractère authentique. Par Léonie Boudreau, Librairie Les Deux Sœurs, Sherbrooke. 7. Le corps que j'ai maintenant, Jessica Broder, édition Cardinal. La course vers la minceur n'a pas été de tout repos pour Jessica Broder. Elle aborde sa bataille des troubles du comportement alimentaire avec humilité. De fil en aiguille, la perception de son corps a été biaisée par l'obsession de la minceur et du physique parfait. Entraînements intensifs et quotidiens, pensées envahissantes sur le décompte des calories ingérées, elle pleurait de faim dans le seul but de gagner des compétitions de fitness. Jusqu'au jour où tout s'écroule. Elle n'en peut plus. Elle consulte une nutritionniste et une psychologue pour retrouver une saine relation à son corps. Le chemin a été ardu, mais elle gagne au change avec une vie épanouie. Jessica Broder est sortie de ce périple avec des kilos en trop, selon les codes sociétaux. Cette lecture est un vent de fraîcheur parmi tous les ouvrages sur le sujet. Par Amélie Simard, Librairie Marie-Laura, Jonquière. C'était Les libraires craquent, essai québécois, 7 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires.
Journée nationale du dépistage du VIH pour un dépistage plus accessible pour tous. Un texte de Stephen Ross, paru le 2 juin 2024 dans le magazine Fugue. Le dépistage demeure encore et toujours la clé pour réduire la transmission des ITSS. À l'occasion de la Journée nationale du dépistage du VIH, et dans un contexte où le gouvernement fédéral a annoncé la fin prochaine du financement du programme d'autotest à domicile, Alexandre Dumont-Blais, directeur général de Réseau, et Maxime Étier, médecin et cofondateur des cliniques médicales Corum et Prolib, discutent des impacts du contexte actuel sur les communautés et les organismes de prévention et de lutte à la propagation du VIH et des autres ITSS. Réseau offre depuis 30 ans des services et programmes en lien avec la prévention du VIH et des ITSS aux hommes, GBQ, et personnes trans qui ont des relations avec des hommes. L'organisme propose notamment des interventions individuelles et en groupe, des outils pour la prévention de la violence entre hommes, ainsi que des ateliers destinés à des clientèles ciblées telles que convives pour les personnes hispanophones et coming out pour les personnes noires. Réseau est également l'un des plus importants distributeurs d'autotests pour le VIH au Québec. L'organisme comptait notamment sur une personne ressource dédiée à 100% à la distribution d'autotests, embauché grâce aux fonds offerts par le gouvernement, ce qui pose un défi pour l'organisme dans le contexte actuel. Pour l'heure, celui-ci peut tout de même continuer à commander gratuitement les tests. Il continuera donc à les distribuer au sein de ses activités. Toutefois, le directeur général souligne que le temps est compté. Nous serons peut-être en mesure de continuer à distribuer des tests jusqu'à la fin de l'année, mais une fois que nous ne pourrons plus commander des autotests, je ne sais pas ce que nous ferons. Il faudra collaborer avec nos partenaires pour trouver des solutions. Pour Alexandre Dumont-Blais, en plus d'être une stratégie parmi un ensemble d'autres contribuant à freiner la transmission du VIH, la distribution d'autotests est également un prétexte de sensibilisation et de discussion avec les communautés. Toute l'importance de la proximité avec la population et de l'accès au dépistage a d'ailleurs été prouvé dans le cadre du projet Zone Rose, implanté l'été dernier par Réseau dans le village. Le conteneur, coiffé d'un cône rose géant, situé sur la rue Sainte-Catherine, faisait office de centre de dépistage gratuit sans rendez-vous et de distribution de matériel de protection, d'autotests et d'outils informationnels durant tout l'été dernier et sera de retour cette année, du 3 juillet au 29 septembre. La popularité de la zone rose a démontré que les gens veulent se faire dépister et qu'il y a un besoin important pour ce service. Alexandre Dumont-Blais rappelle toutefois que, victime de sa popularité, le service est tributaire de sa capacité à réunir des ressources infirmières disponibles à travers ses partenariats. Il rappelle d'ailleurs que des files de personnes se formaient parfois devant le kiosque avant son ouverture. Afin de répondre à cette problématique, l'organisme travaille actuellement à élargir les heures d'ouverture cet été. Nous visons un dépistage plus grand parce que le concept fonctionne. Nous souhaitons donc augmenter les heures de dépistage. Autre enjeu important relevé via la zone rose, l'accès au dépistage pour les personnes n'étant pas couvertes par la RAMQ. En effet, Alexandre Dumont-Blais souligne que plusieurs personnes sans carte RAMQ, par exemple des étudiants étrangers, de nouveaux arrivants, etc., se sont dirigées vers le cône rose géant. Selon lui, ce portrait confirme la nécessité de maintenir en place toutes les stratégies possibles de prévention du VIH. Les systèmes sans rendez-vous gratuit permettent de capter plusieurs personnes sans couverture d'assurance qui peuvent, au minimum, se tester pour le VIH avec un autotest. Les quatre cliniques Prolib situées à Montréal, Sherbrooke et Québec permettent, elles aussi, de donner accès aux services de dépistage et de santé sexuelle à une clientèle qui n'est pas rejointe par le réseau habituel. Les cliniques proposent en effet une plateforme en ligne à travers laquelle la clientèle remplit un questionnaire de manière autonome et est guidée dans les étapes de test et de prélèvement afin de compléter un dépistage en toute intimité. La méthode a pour avantage de limiter les barrières et de donner accès aux services aux personnes qui sont moins à l'aise de parler de leur sexualité. Au total, ce sont 60 000 dépistages qui ont été réalisés grâce au réseau Prolib l'an dernier. Alexandre Dumont-Blais constate par ailleurs qu'au moment où on observe une augmentation des cas d'ITSS à Montréal, la plus jeune génération semble moins bien sensibilisée à la réalité du VIH, ce qui accentue la nécessité d'une approche holistique dans la lutte à la propagation du virus. On note une certaine banalisation et un manque d'information chez les jeunes. Le VIH demeure incurable et requiert une prise de médication à vie. Il est donc important de rendre plus accessibles les stratégies efficaces comme la PrEP. Le docteur Etier constate une situation alarmante similaire auprès de la jeune clientèle de la clinique Prolib. Il y a beaucoup d'éducation à faire auprès des jeunes. Certains viennent pour obtenir la PrEP, mais ils n'ont encore jamais fait de dépistage. D'autres demandent la médication, mais on se rend compte qu'ils ont déjà contracté le virus. Pour le directeur général de réseau, la solution à l'accessibilité passe par l'élimination des barrières au dépistage. On doit offrir des services de dépistage gratuits dans des lieux variés, à des heures variées et par du personnel formé et inclusif. Ça pourrait changer la donne. Au-delà de l'accès aux centres de dépistage, Maxime Etier rappelle que l'accessibilité doit également être abordée de façon globale, en considérant toutes les étapes du processus, incluant la capacité des laboratoires du réseau de santé à traiter un plus grand nombre de tests envoyés par les cliniques. Pour lui, la solution est donc notamment une meilleure concertation entre tous les acteurs impliqués. Il faut adopter une approche globale avec un objectif commun, d'offrir le plus de dépistage possible. Info. Pour en savoir davantage à propos du dépistage du VIH et des services offerts par réseau, visitez réseausanté.org. C'était Journée nationale du dépistage du VIH pour un dépistage plus accessible pour tous, un texte de Stephen Ross, paru le 2 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Pouvirnitouk, le village dissident, a-t-il trouvé son second souffle? Un texte de François Bellemare, paru le 27 juillet 2023 dans Le Devoir. En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième conférence circumpolaire inuit qui se tenait à Iqaluit, dans le futur Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Dernier de trois textes. Le village de Pouvirnitouk, sur la côte de la baie d'Hudson, compte 1800 personnes. Surnommé PUV, prononcé à l'anglaise PUV, il est jaloux de sa réputation parmi les 14 villages nunavois. Bastion de la langue, défendeur de l'autonomie et, surtout, historique fer de lance des dissidents à la Convention de la baie James et du Nord québécois. Ce mouvement politique argumentait qu'en développant les coopératives fondées à la fin des années 1950, une autre voie serait possible, qu'on pouvait refuser les millions offerts aux Inuits en contrepartie de l'extinction de leurs droits ancestraux. Endossée par 11 des autres localités, la Convention est néanmoins en vigueur depuis 1975, pour le meilleur et pour le pire. Superbement placée à la rencontre de la rivière Pouvirnitouk et de la Grande Baie Salée, la localité se voit affligée de graves problèmes sociaux au début du 21e siècle : drogue, alcool, violence. ils sont suivis en 2018 d'une tragique vague de suicides. Malgré les difficultés de la pandémie, la municipalité a dynamisé plusieurs initiatives locales. La première est la maison familiale Pitouate, fondée en mai 2022 comme havre pour les victimes de situations familiales dysfonctionnelles qui y trouvent refuge pour quelques heures ou quelques nuits. Des activités familiales, une garderie court terme et, surtout, une écoute basée sur le principe de promotion de la prévention sont offertes. Sa directrice, Anna Alassouak, énumère les dangers qui guettent les jeunes. Il y a des enfants victimes de violences des adultes, mais aussi beaucoup qui, simplement laissés à eux-mêmes, vont très jeunes aller sniffer de l'essence, la drogue des pauvres. On reçoit tous ces cas sans trop de formalité, offrant ainsi une alternative au placement par la DPJ. Cet espace sécuritaire ouvert à toutes les générations agit comme un large groupe d'entraide. Au centre communautaire Satoumavik, c'est sur la pratique du sport qu'on se concentre, autant pour les enfants que pour les adultes. Les premiers jours du mois, donc suivant l'encaissement des allocations sociales, le centre a moins de participants, et beaucoup plus lors des périodes où la municipalité suspend provisoirement les permis de vente d'alcool pour freiner sa consommation. C'est d'ailleurs tout un dilemme pour les conseils municipaux des localités inuites. Permettre la vente encourage la surconsommation, mais l'interdire favorise les réseaux de contrebande. Sous le couvert de l'anonymat, un employé d'Air Inuit le confirme. Poste Canada interdit aux transporteurs d'ouvrir les colis suspects sans passer d'abord par une procédure très, très complexe. Les trafiquants ont le beau jeu. Un artisanat qui peut redevenir rentable. À l'atelier communautaire de couture, les participantes viennent acquérir des techniques qui ne se transmettent plus de mère en fille comme auparavant. Jadis, rappelle Iga Kalirak, coordonnatrice de l'atelier, toutes les femmes avaient appris dès l'enfance à traiter les peaux de phoque ou de caribou. Désormais, il faut une ressource plus formelle, avec formation technique. Sinon, le savoir-faire s'évapore. Ce programme de formation production varie au fil des saisons. En juillet, on est dans la fabrication de tentes. À partir de la classique tente de prospecteur que les Nunavois ont depuis longtemps adoptée, l'atelier suggère une panoplie de modèles. En faisant d'une pierre deux coups, on maintient et renouvelle les traditions artisanales féminines tout en encourageant une activité économique non négligeable. Car pour celles qui maîtrisent la technique, un marché local existe. Partout au Nunavik, des familles entières passent encore beaucoup de temps à chasser, à pêcher et à piéger. Ça leur prend des tentes. Un gouvernement régional? Bien que la chargée de projet à la municipalité, Maggie Nutaralouk Asapa, suive tous ces projets avec attention, il reste que le maire, Paulusi Anguiou, se dit concentré par les dossiers d'infrastructure à moderniser, eau potable, égouts, etc. Il laisse à la coopérative locale, l'une des plus anciennes du Nunavik, la charge des initiatives économiques. La coop est en effet impliquée comme détaillant alimentaire dans la distribution d'essence ou la répartition des produits de la chasse par l'entremise du programme d'appui aux chasseurs. Et, historiquement, confirme M. Anguiou, l'activité coopérative y est même plus importante que dans les autres villages. Une autre fierté de Pouvirnitouk, toujours moins pressée que Koudjouak, a s'emballé pour la modernité. La charmante localité de la baie du Tson se considère-t-elle toujours dissidente? Question délicate, répond le M. Anguiou. Disons qu'entre un développement économique pas trop effréné et le maintien de notre différence, on trouvera bien un équilibre. Près d'un demi-siècle après la Convention de la baie James, le Nunavik réussira-t-il à négocier avec le Québec du Sud une nouvelle entente qui transformerait les instances créées par la Convention de 1975, ne constituant pour l'instant qu'une administration supramunicipale, en un véritable gouvernement régional? L'un des deux représentants Nunavois mandatés pour mener ces pourparlers est Tounou Napartouk, ancien maire de Koudjouak et candidat libéral aux élections de 2018. Parlant couramment français, il me dit que le dossier est complexe. Ira-t-on, comme au Nunavut, vers un gouvernement public sans référence explicite à l'ascendance inuite, ou plutôt vers un gouvernement ethnique basé sur la liste des bénéficiaires de la CBJNQ qui, donc, exclurait les non-inuits établis dans les 14 villages? Malgré de nombreuses tentatives depuis 2 mois, il n'a pas été possible d'interroger les responsables de la société Makivik, pourtant l'un des acteurs clés pour tout ce qui touche le développement de cette inuitie québécoise. Grand dossier à suivre. Une région sans route, mais au bilan routier préoccupant. Concernant la prévention routière, les autorités locales sont beaucoup moins proactives. Le soir de mon arrivée à Pouvirnitouk, un accident de véhicule tout-terrain, un VTT ou 4 roues, est survenu à 100 mètres du lieu où je logeais, coûtant la vie à une adolescente de 17 ans. Un accident de plus, déploré le lendemain par la municipalité, qui abaisse son drapeau devant ses bureaux. Et ce n'est pas le premier accident mortel de l'année dans la région. Comment ne pas faire le lien avec l'inaction généralisée partout où Nunavik, dont les villages sont sillonnés de véhicules non immatriculés et donc non assurés, et conduits par des conducteurs sans permis? On pourrait ajouter, sans cours préalable de sécurité routière et sur les VTT portant 3 ou 4 personnes, même sans casque de protection? Interrogé, le maire, Paul-Houssi Anguillou, se limite à « souhaiter » une attitude plus stricte des policiers, sans vouloir pour l'instant insister auprès du service de police du Nunavik. Il se cantonne à mentionner des discussions en cours sur le sujet. C'était « Pouvirnitouk, le village dissident, a-t-il trouvé son second souffle ?» Un texte de François Bellemare paru le 27 juillet 2023 dans Le Devoir.